France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, nous vous proposons une série sur l'idée d'aide humanitaire. Une idée qui s'est forgée de crise en crise, mais qui connaît peut-être en ce moment une crise d'une particulière gravité face à la situation à Gaza. Oui, Gaza est à l'horizon de cette série. La difficulté à y faire parvenir de l'aide humanitaire concentre-t-elle de très vieux problèmes récurrents dans toute l'histoire de l'humanitaire ? Ou bien signe-t-elle une méfiance plus aiguë que jamais envers les acteurs de l'humanitaire qu'Israël ne cesse de qualifier de pro-Hamas ? Il est clair qu'il faut toujours, aux humanitaires, pour pénétrer sur un territoire, convaincre les autorités politiques qui le contrôlent. Il serait naïf de croire que l'indépendance des organisations non gouvernementales les place au-dessus de toute discussion, voire de toute négociation politique. Mais dans la situation présente, tout semble radicalisé. L'idée même d'instances ne s'occupant que des humains en souffrance, sans être partie prenante dans la guerre, semble avoir perdu toute son aura. Le spectacle de la souffrance peine à mobiliser massivement les opinions publiques. L'invoquer signerait, entend-on souvent, une idéologie anti-israélienne fondamentale, voire une complaisance envers l'antisémitisme. En tout cas, paraît-il, l'oubli de l'horreur des massacres et prises d'otages du 7 octobre 2023. Émotions et pensées sont sommées d'être binaires. Hamas ou Netanyahou, il faut choisir, c'est assez effrayant, cette empathie sélective, voire hémiplégique. L'idée d'aide humanitaire est-elle en ruine ? Nous revenons cette semaine sur l'histoire de cette idée qui soulève plein de questions philosophiques. Et notre premier épisode ce matin est consacré aux origines de l'idée d'aide humanitaire, aux idéaux initiaux qui l'ont marqué, évoluant au fil du temps. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis Nice. Merci aux équipes d'ICI Azur. Vous êtes médecin et l'une des grandes figures du mouvement humanitaire en France. Vous avez commencé à aller sur le terrain avec Médecins sans frontières à la fin des années 1970. Vous êtes devenu plus tard, en 1985, le directeur médical d'Action contre la faim. Deux organisations, MSF et ACIF, dont vous êtes devenu plus tard encore, respectivement, vice-président et président. Vous avez aussi eu des activités diplomatiques, comme attaché culturel au Brésil, plus tard en 2007 comme ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Et puis, vous êtes un écrivain prolifique, reconnu. Je rappelle votre prix Goncourt en 2001 pour votre roman Rouge Brésil. Cela dit, ce matin, nous parlerons plus de vos essais, puisque dès 1986, vous avez tenté de raconter l'histoire de l'idée humanitaire, c'était très tôt, et aussi les problèmes attachés à cette idée, dans un livre paru chez Lattès, intitulé Le piège, quand l'aide humanitaire remplace la guerre. Et puis avec nous en studio, deux très bons connaisseurs, eux aussi, de l'histoire de l'humanitaire. Bonjour Marie-Luce Desgrandchamps.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire à l'Université de Genève. Vous avez publié un livre issu de votre thèse de doctorat, L'humanitaire en guerre civile, la crise du Biafra 1967-1970. Aux presses universitaires de Rennes. Et bonjour Michael Neumann.
Bonjour.
Vous avez fait des études d'histoire contemporaine, vous vous êtes engagé à Médecins sans frontières en 1999, où vous êtes désormais responsable de plusieurs opérations sur le terrain. Vous avez co-dirigé un ouvrage sur MSF, paru en 2016 aux éditions du CNRS. Alors pour commencer notre conversation, revenons, grâce à un film de 1948, oui, de Christian Jacques, revenons au fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, et à son intervention en 1859 auprès de Napoléon III sur le front de Solferino, face aux troupes autrichiennes, au vu des dizaines de milliers de morts et de blessés.
Monsieur Henri Dunant.
Que votre majesté me pardonne de me présenter devant elle tachée de sang et de boue.
Monsieur, je sais votre belle conduite et vous remercie de vos initiatives.
Sire, c'est pour en prendre d'autres que je sollicite l'appui de votre majesté. Nous manquons de tout et surtout de médecins.
Nos officiers de santé, peu nombreux déjà, sont débordés.
Sire, il se trouve plusieurs chirurgiens parmi les prisonniers autrichiens. Je n'en manque que quelques-uns pour sauver 500 blessés.
Quoi ? Vous voulez confier nos blessés à nos ennemis ?
Sire, j'ai la conviction que ces hommes accepteront de nous aider loyalement, et je suis sûr qu'ils auront à cœur de se montrer dignes de notre confiance.
Messieurs, que pensez-vous de ce projet téméraire ?
Sire, la chose me paraît imprudente.
Elle ne s'est jamais faite.
Raison de plus pour la tenter. Sire, Comment décrire à votre majesté l'enfer où je vis depuis 3 jours? Ce que j'entends, ce que je vois dépasse en horreur tout ce que je pouvais imaginer. J'ai vu des vers grouiller dans les plaies. J'ai entendu vieux soldats hurler, pleurer, supplier qu'on les achève. J'ai vu... Sire, j'appelle au secours. Les bonnes volontés ne suffisent pas. Il me faut aussi des médecins. Vos courageux soldats les ont bien mérités.
Monsieur Dunant, je vous donnerai vos chirurgiens quand vous me rendrez le bouton de mon habit.
Que votre majesté me pardonne, je suis fatigué, fiévreux.
Général de Marcy, conduisez monsieur au camp des prisonniers. Monsieur Dunant, puissiez-vous ne pas être déçu.
Marilus Desgrandchamps, la Croix-Rouge a... aujourd'hui, parfois une image assez lisse. Cet extrait de film, l'histoire de Henri Dunant, nous permet de nous souvenir qu'au départ, il y avait une audace incroyable.
Oui, alors il y a effectivement une forme d'audace. Bon, là, ce qu'on entend dans le film est particulièrement romancé. Mais il est vrai que Henri Dunant, qui va se retrouver justement en marge de la bataille de Solferino, va vouloir se mobiliser en fait pour soigner tous ces blessés. Et puis, à partir de là, il va avoir cette idée de mettre en place des sociétés de secours, en fait, qui vont pouvoir prendre en charge les blessés lors des conflits armés et de régler l'organisation de ces sociétés de secours et ces principes, en fait, de soins aux soldats par le biais d'une convention internationale entre les États. Donc là, on se trouve dans la deuxième moitié du 19e siècle. En 1863, ça va être la création du Comité international de la Croix-Rouge et puis progressivement de toute une série de sociétés de secours de la Croix-Rouge, des sociétés qui vont être nationales, qui vont se créer dans chacun des différents États, notamment en Europe et aux États-Unis, dans un premier temps. Et ces sociétés vont justement être mises en place pour la prise en charge des blessés. Elles vont connaître une fortune importante, notamment dans le contexte nationaliste aussi de cette période-là. Donc on voit tout de suite les tensions en fait apparaître entre une forme d'internationalisme et une forme de nationalisme aussi au sein même du mouvement de la Croix-Rouge.
Mouvement de la Croix-Rouge, donc qui devient une organisation à partir de 1864, reconnue, soutenue par une toute première convention de Genève. Après, il y aura 4 autres conventions de Genève importantes dans l'entre-deux-guerres au moment de la Société des Nations. La Croix-Rouge qui va recevoir en 1917 le prix Nobel de la paix. Jean-François Ruffin, si on rêve... je vous ai mal, c'est un classique. Excusez-moi, Jean-Christophe Ruffin... lorsque vous parlez des origines philosophiques de l'humanitaire, vous écrivez ceci, je vous cite, « L'humanitaire forme avec la démocratie un couple indissociable. L'un comme l'autre, naissent de la même source philosophique et l'humanitaire est en quelque sorte la part universelle de la démocratie. » Napoléon III, c'est pas la démocratie, mais la République va arriver peu de temps après. Il était donc logique que l'humanitaire se déploie avec elle.
Oui, en fait, cet extrait fait référence à autre chose. Fait référence à avant Dunant, parce que l'humanitaire n'a pas commencé avec la Croix-Rouge, elle existait avant, et notamment, elle illustre la prééminence, la puissance des États-Unis dans ce mouvement humanitaire. C'est Tocqueville, en fait, qui, dans La démocratie en Amérique, note ça en disant « La société américaine, au fond, n'a pas de ciment, elle ne se confronte à rien, elle n'a pas en face d'elle une monarchie, une église, etc., qu'elle doit combattre. » Et donc, ce qui rassemble ces sociétés éparses des États-Unis, c'est l'idée philanthropique. Et l'idée philanthropique sur place, vers les pauvres, mais aussi la volonté philanthropique à l'extérieur. Et il y a des grandes opérations qui sont menées, notamment au moment de la révolte des esclaves à Saint-Domingue, avec l'intervention assez massive des États-Unis, non sans arrière-pensée d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi une façon de s'imposer dans son espace géopolitique. Mais disons qu'il y a ce lien. Et je pense que ce lien perdure, quelles que soient les organisations, les périodes, etc. C'est-à-dire que, quel est ce lien philosophique? C'est l'idée que l'autre est une part de vous-même. C'est-à-dire qu'à l'opposé des sociétés de caste, des sociétés qui qui vont faire que on ne s'identifie pas à certains parce que ce sont, par exemple, des intouchables dans des sociétés de caste, alors que vous êtes un brahman, etc. Dans la démocratie, l'homo democraticus, si vous voulez, fait qu'il compatit, c'est-à-dire qu'il souffre à la place de l'autre, et que si un jour on commence à dire dans ces sociétés, après tout ce qui arrive à l'autre, je m'en fiche, et puis ils peuvent mourir, bien on tombe dans un autre type, évidemment, de régime, et c'est quand même là que se fait une sorte de cassure avec ce qu'est profondément la démocratie.
Donc, Michael Neumann, vous aussi, vous pensez que l'idée démocratique ayant mis en son centre la notion d'individu, il y a une logique philosophique à développer en même temps quelque chose qu'on a appelé plus tard l'humanitaire.
Alors, je crois qu'il y a une histoire particulière, intéressante à écrire entre les démocraties et l'idée humanitaire. Je pense malgré tout que l'humanitaire n'est pas l'apanage du monde démocratique. Je pense qu'il y a des traditions humanitaires dans tout un tas d'autres continents. Il y a des traditions humanitaires en Chine, il y a des traditions humanitaires dans le monde arabo-musulman, il y a des traditions humanitaires en Inde. Ce que traduit un peu ces introductions, c'est la capacité de l'Occident à s'emparer d'unité, d'en faire une idée universelle depuis l'Occident. De s'en arroger l'appartenance et la propriété. Il faut se rappeler que ces fameuses conventions de Genève de la fin du XIXe siècle ne s'appliquaient par exemple pas à l'impérialisme européen et à ses victimes. Que les victimes coloniales de l'impérialisme européen n'étaient pas couvertes par les conventions de Genève qui n'avaient cours que dans le cadre des guerres civiles européennes de la fin du 19e et du début du 20e. Donc ce qu'il faut garder peut-être également à l'esprit, tout en reconnaissant l'important jalon constitué par la création du Comité international de la Croix-Rouge et des conventions de Genève, poussé et promu par Henri Dunant, c'est sa capacité à avoir historiquement masqué tout un tas d'autres phénomènes humanitaires. Là où on peut reconnaître effectivement, en tout cas, une prééminence importante de l'Occident, c'est sur l'idée de construction d'un système et d'un dispositif humanitaire. Mais remarquons dès à présent toutefois que cette idée humanitaire est également un moyen de l'Occident pour affirmer sa supériorité morale.
Juste une petite correction, tout à l'heure j'ai dit dans l'entre-deux-guerres, les conventions de Genève, les quatre majeures, en fait c'est 1949, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait déjà cette idée de convention de Genève devant aider les blessés, et ça on le doit à Henri Dunant, Marius Desgrandchamps. Mais je crois que vous aussi, vous insistez sur le fait que l'idée d'humanitaire n'est pas exclusivement occidentale.
Oui, tout à fait. Elle n'est pas exclusivement occidentale. Vous venez de le mentionner. Mais en tout cas, ce qui me semble aussi important de souligner, c'est que dans sa composante occidentale, elle est extrêmement liée à la question de la civilisation et donc, d'une certaine façon, à la question du colonialisme. Les premiers humanitaires prônent des formes de colonialisme.
Et Dunant lui-même était en Algérie, à la tête, c'était un homme d'affaires, par ailleurs calviniste, suisse, avec des engagements sociaux très forts dans sa famille, mais c'était un homme d'affaires, il avait une société, qu'on doit dire coloniale, il s'est établi en Algérie, et il a fini d'ailleurs par prendre la nationalité française. Vous avez à cœur de souligner ces choses.
Oui, et en général, alors on parle de Dunant bien évidemment, mais on parle aussi beaucoup, souvent comme exemple en fait de ces deux versants d'une certaine façon qui font partie en fait de la même idée de civilisation. On peut souligner le rôle notamment de Gustave Moynier, qui est celui qui va être considéré dans l'histoire de la Croix-Rouge comme le bâtisseur de la Croix-Rouge, une fois que Dunant en fait va être évincé du mouvement, et bien Moynier est un fervent partisan de la colonisation du Congo de Léopold II, et il va être même le consul du Congo en Suisse, et il va prôner justement le fait d'apporter la civilisation au Congo, et va présenter en fait la mission, l'engagement de Léopold II sur le continent africain quasiment comme une affaire de civilisation pour apporter les bienfaits de la civilisation justement aux populations africaines. Donc on voit bien que les deux choses en fait fonctionnent ensemble d'une certaine façon et on a cette idée de supériorité morale de l'Occident effectivement que vous avez souligné juste avant. Dans le cadre déjà, ne serait-ce même que dans les deux fondateurs, les deux personnes qui sont considérées comme les fondateurs de la Croix-Rouge.
Jean-Christophe Ruffin, par ailleurs, ça n'empêche pas, il faut l'ajouter, que chez beaucoup de personnes engagées comme vous dans l'humanitaire, dans les années 60, 70, 80, on a eu beaucoup de militants anti-colonialistes. Cette complexité vous paraît-elle importante à souligner, puisqu'on est dans une émission sur les origines. Les origines elles-mêmes sont contradictoires, en quelque sorte. Il y a eu une touche colonialiste au départ, mais quand même un humanisme qu'il faut rappeler, hein, pour Henri Dunant. Et il y a eu un fort mouvement anticolonialiste qui a guidé les acteurs de l'humanitaire au XXe siècle.
Oui, parce que c'est pas la même référence historique. Si vous voulez, Henri Dunant, ce sont les guerres européennes de la fin du 19e siècle. Donc, Dunant, il a deux intuitions. La première, c'est que les victimes, à partir du moment où vous êtes blessé, un soldat est blessé, il n'appartient plus à un camp, hein, il fait partie de quelque chose de beaucoup plus universel. C'est l'espace, comme ça, des victimes, qui donc est neutre, par définition, et n'exige pas d'être soigné par quelqu'un de son camp. On peut avoir des chirurgiens autrichiens qui soignent des Français, vice versa, etc. Et surtout, il faut une organisation neutre pour s'en occuper. C'est la première intuition. Et la deuxième, c'est que la guerre, qui pas depuis Clausewitz, était considérée comme une montée aux extrêmes, finalement, est aussi un espace dans lequel il peut y avoir une loi, c'est-à-dire dans lequel on peut définir un espace d'entente préalable avec des signatures qui sont voilà et qui se traduit par les conventions Genève dont vous avez parlé. Mais ça fonctionne dans un espace très particulier qui est l'espace de l'Europe, et non seulement de l'Europe, mais de l'Europe de cette époque, fin du 19e siècle, avec des souverains éclairés qui se piquent eux-mêmes d'avoir une certaine forme d'humanisme, d'humanité en tout cas, et qui respectent la parole donnée. Bon, après, tout ça va changer beaucoup, et évidemment, se fracasser contre un certain nombre de réalités historiques, notamment la Deuxième Guerre mondiale, et on sait que la Croix-Rouge, le système Croix-Rouge en général, puisque c'est compliqué, il y a le comité international, plus les sociétés nationales, la Ligue, etc., mais enfin que la Croix-Rouge dans son ensemble va sortir très fortement mise en cause après la Deuxième Guerre mondiale pour n'avoir pas dénoncé l'Holocauste, pour s'être montrée finalement non seulement impuissante, mais d'une certaine façon complice. Et donc, dans les années 70, en effet, à la faveur de la guerre du Biafra, va apparaître un mouvement qui a une origine complètement différente et même opposée, puisque la guerre du Biafra, c'est une guerre qui se passe au Nigeria, dans le sud du Nigeria. Juste en face, il y a une petite île, Fernando Po. Il y a des avions de secours qui sont sur cette île. Ils ne peuvent pas décoller. Et là, tout d'un coup, la perspective s'inverse. Dunant pensait que la loi permettait d'atteindre les victimes. Et là, c'est le contraire. La loi interdit d'atteindre les victimes, puisque le gouvernement nigérian refuse l'entrée sur son territoire. Et donc là, se crée effectivement un mouvement complètement différent, qui lui s'inspire plus de d'autres idéaux finalement, qui sont des idéaux en effet liés à des combats politiques, des combats anticolonialistes, des combats tiers-mondistes, et c'est le début effectivement de ce d'une façon d'ailleurs assez éparse, mais enfin de ce mouvement dit sans frontières qui va se coaguler, on peut dire, à partir de 1970.
Alors on va traiter de ce moment-là en revenant peut-être sur les échecs de la Croix-Rouge ou les déceptions qu'elle a pu produire, dont vous venez de parler, on va y revenir. Le Biafra, je le rappelle, était un état sécessionniste du sud-est du Nigeria où vivait un peuple appelé les Igbos. Ce Biafra a été reconnu par quelques pays d'Afrique. Il y a aussi eu une aide discrète de la France. Le Nigeria lui a imposé un blocus qui a quand même fait 1 million de morts, malgré la mobilisation humanitaire et notamment des morts par la famine. Écoutez une archive de la radio suisse en 1968, en décembre. Il s'agit d'un délégué du Comité international de la Croix-Rouge.
Le territoire se rétrécit ici comme peau de chagrin en définitive et les réfugiés affluent constamment.
La mortalité est assez forte, n'est-ce pas ?
La mortalité est est très très élevé. Je crois qu'on peut actuellement, si on articule le chiffre de 5 à 6 000 personnes par jour en dessous de ce qui est la normale pour le pays, on est en dessous de la réalité encore. Et je crois que ce chiffre, étant donné les conditions dans lesquelles les gens vivent actuellement et les conditions qui iront en empirant certainement, à moins que des secours extraordinaires interviennent et qu'un pont, un véritable pont aérien soit établi entre le Biafra et tout ce qui nous attend à l'extérieur, je crois que cette mortalité va doubler le mois qui vient et doubler, aller en progression géométrique. C'est-à-dire que nous aurons le mois prochain près de 12 000 personnes qui mourront, 25 000, si bien qu'à la fin de l'année, on n'arrivera pas loin, disons, d'un million de personnes qui auront trouvé la mort en raison d'un, disons, d'inanition, mourir de faim. Je pense que on ne peut pas se rendre compte, chez nous, en Europe, de ce que ça veut dire, vraiment, mourir de faim.
Pour vous, vous êtes combien parmi l'équipe de la Croix-Rouge?
L'équipe de la Croix-Rouge, est partagée en deux. Nous sommes en tout une quinzaine, c'est-à-dire nous avons deux teams médicaux qui s'occupent plus particulièrement des cliniques et de reprendre des hôpitaux où se trouvent les malades, où affluent les malades. C'est-à-dire, je pourrais vous citer le cas d'un hôpital où nous avons 200 lits et plus de 800 malades, dans des conditions souvent extrêmement primitives et précaires.
Michael Neumann, qu'est-ce que des médecins qui plus tard fonderont Médecins sans frontières pouvaient faire que ne pouvait pas faire la Croix-Rouge?
Alors, ce qui va se passer au moment de la guerre du Biafra, c'est évidemment plusieurs choses. C'est le constat par un certain nombre de jeunes médecins enrôlés par la Croix-Rouge française pour travailler aux côtés du Comité international de la Croix-Rouge, que les dispositifs médicaux sont insuffisants. La deuxième chose, elle est de se retrouver dans un conflit qui est parmi les tout premiers à être extrêmement médiatisé. La nouveauté du conflit du Biafra, c'est qu'on a affaire à un conflit sous caméra. Et que c'est l'occasion pour ces médecins de réfléchir à la manière avec laquelle ils peuvent communiquer avec le public et dénoncer les situations dans un moment où beaucoup de ces jeunes gens s'interrogent précisément sur les silences passés de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale face à l'Holocauste. Et eux envisagent leur rôle comme un moyen de dépasser ce silence. Et c'est effectivement à partir de ça que va se forger, sinon l'identité du sans-frontiérisme, du coup une certaine, du moins une certaine idée ou une certaine mythologie du sans-frontiérisme. Et peut-être la troisième élément qui va constituer, je dirais, l'épine dorsale de la suite du sans-frontiérisme, c'est cette capacité effectivement à au moins dans les discours, tenter de s'affranchir des limites imposées par la souveraineté, puisque la région du Biafra était soumise à un siège et à un blocus très indépassable. À partir de là, naît une réflexion sur ce qui deviendra plus tard le devoir d'ingérence, même si Médecins sans frontières s'en dissociera très rapidement.
Marie-Luce Desgrandchamps, vous avez fait votre thèse sur cette crise du Biafra. Vous en avez fait un livre. Est-ce que vraiment les médecins engagés qui fonderont ensuite Médecins sans frontières pensaient qu'ils parviendraient à être hors politique? Parce qu'il est vrai que la Croix-Rouge a besoin de l'aval de l'ONU. Elle a été instituée après la Deuxième Guerre mondiale, vraiment par les Nations Unies. Elle ne peut pas intervenir s'il y a des conflits graves à ce propos au Conseil de sécurité. Est-ce que vraiment les médecins qui y sont allés ont pensé que eux pourraient intervenir par-delà les blocages politiques? C'est une très belle idée, hein, mais je voudrais savoir jusqu'à quel point il l'embrassait.
Alors, je voudrais juste revenir sur une ou deux choses. Je ne sais pas exactement, voilà, jusqu'à quel point est-ce qu'ils embrassaient cette idée, mais peut-être préciser un ou deux points concernant la guerre du Biafra. Donc, je rappelle juste que MSF est fondée en 1971, donc une fois que le conflit est terminé, et que pendant le conflit, il s'agit en fait d'une petite dizaine de médecins français qui travaillent parmi des centaines d'autres d'autres personnes, en fait, qui vont être envoyées sur le territoire biafrais, mais également à l'extérieur de celui-ci, donc sur le territoire du Nigeria fédéral, en fait, qui entoure l'enclave biafraise, pour porter secours à cette population qui est justement en proie à la famine. Si vous voulez, par rapport à la masse de l'opération de secours, le rôle des médecins français à ce moment-là, en tant que tel, il est relativement peu visible. Et ceux qui vont forcer le blocus, ce sont en priorité les missionnaires, donc des organisations missionnaires qui vont être soutenues en Europe et aux États-Unis par les organisations caritatives protestantes et Caritas Internationalis pour ce qui est de l'Église catholique. Il y a aussi une concurrence à ce moment-là entre les deux formes de d'aide humanitaire au sein du monde religieux et les missionnaires et ensuite les Croix-Rouges, en réalité. Et finalement,
donc, la Croix-Rouge est aussi intervenue, en vérité.
La Croix-Rouge intervient. La Croix-Rouge,
elle n'était pas aussi bloquée que ce qu'on pourrait croire.
Non, non, absolument pas. Elle n'est pas bloquée. Probablement qu'elle n'intervient pas assez aux yeux des médecins, qu'elle ne fait pas suffisamment de bruit aux yeux des médecins. Mmh. Ça, et d'un certain nombre de médecins. Mais en fait, ce qui force le blocus à l'été 1968, c'est les organisations religieuses et la Croix-Rouge. Et c'est pour ça que les médecins, en fait, ils font partie de cette organisation, enfin, de la Croix-Rouge et des équipes Croix-Rouge qui sont envoyées sur le terrain. Et d'une certaine manière, je ne veux pas minimiser leur rôle, mais il faut quand même souligner un certain nombre de points, c'est-à-dire qu'ils font partie des équipes qui sont fournies au Comité international de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge française, et la Croix-Rouge française est très fortement soutenue par le gouvernement français qui a des intérêts au Biafra, et qui veut justement affaiblir le Nigeria, et qui soutient la sécession au Biafra, en envoyant notamment de l'aide humanitaire, entre autres, pas que, mais entre autres. Et donc, en fait, eux, les médecins français, si vous voulez, ils participent de toute cette opération. Donc, il y a bien une intervention qui se fait à ce moment-là, et elle est soutenue, si vous voulez, aussi par d'autres États et par l'Organisation des Nations Unies, pas directement, puisque l'Organisation des Nations Unies ne peut pas prendre position, vu qu'elle est, c'est un conflit interne, donc normalement elle ne peut pas prendre position, mais comme il y a une telle mobilisation, une telle émotion qui se développe dans le monde, étant donné que c'est un conflit justement qui est médiatisé, télévisé, etc., il y a une telle émotion qui se développe que tout le monde est bien content finalement qu'il y ait des organisations qui puissent intervenir, que ce soit au niveau des organisations religieuses ou des Croix-Rouges.
Jean-Christophe Ruffin, sur la vision du monde qui a prévalu à un moment, chez ces médecins qui, après le Biafra, ont créé Médecins sans frontières. Tout à l'heure, on a parlé d'engagements anticoloniaux, tiers-mondistes. En même temps, beaucoup disent qu'ils sont revenus aussi de leur tiers-mondisme. Ce sont des pays, et pas seulement le Biafra, mais tout ce qui va suivre du Sud, qui vont aussi commettre des horreurs pour lesquelles ils sont envoyés. Donc souvent, il fallait aussi revenir d'un certain tiers-mondisme pour être engagé humanitaire. Et puis sur ce problème par rapport à la Croix-Rouge, j'aimerais bien vous entendre sur cette complexité des idéaux et des pensées qui accompagnaient les actes.
Oui, non mais c'est peut-être le privilège de l'âge, le fait d'avoir un peu vécu ces périodes. Enfin, moi je suis arrivé après le Biafra, mais disons que ces premières missions, ces premiers balbutiements de Médecins sans frontières et de ce type d'organisation étaient vraiment négligeables en termes de quantitatifs par rapport aux autres organisations qui intervenaient sur ces conflits. Donc c'est pas tellement, il faut peut-être les juger sur leur poids à l'époque, qui était extrêmement faible. Finalement, c'était un poids médiatique, mais il n'y avait pas, enfin, elle n'existait pratiquement pas en tant qu'organisation. Il a fallu attendre les années 75, 77, 79, avec tous ces conflits de basse intensité qui sont apparus dans le monde, du Cambodge, l'Angola, le Mozambique, le Salvador, etc., l'Afghanistan, pour les voir véritablement se structurer. Simplement, parfois, vous savez, une idée apparaît et elle est porteuse de quelque chose. Quelque chose ne va pas forcément se déployer tout de suite. Mmh. Voilà. Et donc, il y avait une sorte de cristal, si je puis dire, idéologique, qui était là et qui lui a son importance. C'est-à-dire cette idée, quelle était-elle, si vous voulez, par rapport à la Croix-Rouge, c'est l'idée que finalement, la loi, encore une fois, le droit international humanitaire, etc., qui était considéré comme une solution, ne l'était pas, qu'il fallait parfois, au contraire, transgresser la loi, que la souveraineté était un problème, que le devoir moral des individus pour aller secourir leurs semblables était plus puissant que les interdits qui pouvaient peser sur ce type de choses. Vous voyez, tout ça, ce sont des germes qui vont ensuite s'épanouir, mais plus tard. Quand, j'allais dire, le monde va ressembler à ce que cette idéologie finalement prévoyait. C'est-à-dire que tout d'un coup, à la fin de cette guerre froide, à la fin de la guerre froide, si vous voulez, il y avait une sorte de blocage des nations Unis, de limitation et de compromission aussi de la Croix-Rouge, même si elle restait puissante, et tout d'un coup, finalement, dans des endroits comme l'Afghanistan, par exemple, comme les maquis afghans, il y a eu à ce moment-là un boulevard pour ce type d'opération. Vous voyez, mais initialement, et au Biafra en particulier, le rôle des quelques médecins qui ont été négligeables, finalement.
Donc c'est l'idée qui a fait son chemin après le Biafra, qui nous intéresse ici, hein, on est dans une émission où on s'intéresse aux idées, aux concepts, c'est bien le ton ici. Je crois que vous voulez dire quelque chose, Michael Neumann.
Oui, je voulais rappeler peut-être qu'une grande rupture sur laquelle il faut insister, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, sur l'évolution entre la Convention de Genève de 1864 et celle qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, c'est que ces dernières incluent, je dirais, enfin les civils. C'est la première fois où la question de la protection des civils et de la sauvegarde des civils est prise en compte dans le droit international, est intégrée au droit international. Donc les discussions sur le Biafra et consécutives qui amèneront à la création notamment de Médecins sans frontières, elles sont le résultat de cette évolution majeure qui fait que les soldats ne sont plus les seuls à bénéficier de ces conventions.
Civils et réfugiés, bon, ça posait beaucoup de problèmes déjà à beaucoup de monde avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu quand même le dispositif Nansen avec des passeports distribués pour les apatrides, un haut commissariat pour les réfugiés de la SDN, qui l'a présidé d'ailleurs, Nansen, qui était un explorateur. Mais c'est vrai que les civils... au fond, l'ONU est mise devant sa responsabilité et en même temps intervenir avec le CICR, intervenir avec des instances. Le Haut Commissariat aux réfugiés existe à partir de 1950. Il y avait des blocages, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le problème des blocages politiques va se poser aussi à des mouvements énergiques et ambitieux comme MSF? En fait, on va pas découvrir ce problème. Ça existe toujours.
Bien sûr. Alors, vous le disiez en introduction de votre émission, l'humanitaire ne repose que sur la logique du consentement et de la négociation. Elle est donc embarquée dans la politique par essence. L'humanitaire est un mouvement apolitique en ce sens que les organisations humanitaires ne choisissent pas un camp contre l'autre, souhaitent maintenir une équidistance entre les parties au conflit, et malgré tout, elles sont emmêlées dans la vie politique par ce simple fait qu'elles nécessitent, que son action nécessite l'accord des pouvoirs. C'était vrai pendant la guerre froide, ce qui explique qu'en Afghanistan, par exemple, Médecins sans frontières, comme l'intégralité des associations dites des French Doctors, n'aient jamais pu intervenir du côté soviétique ou pro-soviétique, mais seulement avec le soutien des Américains, par exemple. C'est également vrai sur tout un tas de situations de conflits. Jean-Christophe Ruffin parlait de l'Angola tout à l'heure. On pourrait parler de l'Érythrée également, où finalement cette hostilité de bloc a condamné les humanitaires à n'être actifs que d'un seul côté. Le grand basculement, il a lieu à la fin des années 80, au moment de la chute du mur de Berlin et de la chute de l'Empire soviétique, qui ouvre un monde nouveau, complètement nouveaux aux humanitaires, qui vont, je dirais, enfin pouvoir intervenir dans tout un tas de zones dans lesquelles ils ne pouvaient pas intervenir jusque-là. Et cette période, elle est intéressante parce qu'elle marque le plus grand développement de l'histoire de l'humanitaire. C'est le décuplement des ressources, le décuplement de ses moyens de travail, un nombre d'activités beaucoup plus conséquentes qu'auparavant. On entre réellement dans une ère différente qui marque, pour en revenir à l'intervention de Jean-Christophe Ruffin tout à l'heure, quelque chose de très important et significatif dans l'histoire entre les démocraties libérales et l'humanitaire.
Même si la politique ne s'arrête pas, les rapports de force non plus, Jean-Christophe Ruffin, vous insistez beaucoup là-dessus dans le piège humanitaire, qui est le titre d'un de vos livres très précoces, dès les années 1980. Il est clair que les humanitaires, à un moment, doivent négocier des choses avec des pouvoirs politiques, voire peuvent se faire avoir. C'est une des questions qui va être soulevée notamment par la famine en Éthiopie et l'intervention de Médecins Sans Frontières en 1985, puis son désir de retrait, et puis finalement MSF va être mise dehors par le gouvernement éthiopien. J'aimerais bien que vous nous précisiez en quoi on ne peut pas éviter ce piège. Vous le dites presque tout le temps dans vos écrits. C'est comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'apolitique qui est sans arrêt en train d'être confronté à des rapports de force qu'on ne peut pas évincer.
Oui, mais je pense pas du tout que la création de sans-frontiérisme ait marqué une sorte de volonté de s'abstraire du politique. Pas du tout. C'est plutôt le contraire.
Oui, vous le dites beaucoup, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'avant, moi je me souviens quand j'ai publié ces premiers livres qui faisaient l'histoire, qui essayaient de comprendre ce qu'on faisait, parce que faut imaginer que moi j'étais un acteur, donc j'étais aussi, je faisais partie de ceux qui réfléchissaient à ce qu'on faisait. C'était pas une volonté. Moi, j'étais pas historien. La volonté n'était pas de créer un savoir académique. C'était de créer une sorte de vade-mecum pour les gens qui allaient partir et qui pouvaient ensuite bénéficier peut-être de l'expérience de ceux qui les avaient précédés. C'était ça l'idée.
Oui.
Et donc, dans cette perspective-là, ce qui nous apparaissait, c'était que finalement, avant, il y avait ce qu'on appelait notamment la charité, puisqu'on a beaucoup, on a peu parlé de la dimension religieuse, mais disons que l'humanitaire était considéré justement, a priori, beaucoup de gens ne voulaient pas entendre parler de lien entre la politique et l'humanitaire. Et même, finalement, l'idée du non, c'était de faire sortir les politiques d'un espace qui serait celui des victimes et qui serait confié à une organisation neutre, indépendante, etc. Et finalement, les humanitaires de type sans frontières ont réintroduit la politique, mais pas au sens du droit, pas au sens d'aller demander des signatures à des puissants, mais au sens de ne pouvoir concevoir l'action que à partir d'une analyse politique. Autrement dit, vous avez une situation, vous voulez intervenir, vous voulez atteindre les victimes, ben il suffit pas d'arriver, de dire bonjour, je suis gentil, je viens voir les victimes. Non, il faut savoir quel est l'enjeu, et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Gaza, mais c'est ça qui nous a frappé dès le début, c'est que l'aide humanitaire est un enjeu politique majeur. Il y a une économie de guerre dans ces conflits qui cherche forcément à s'emparer, d'une façon ou d'une autre, du contrôle de ce type d'aide. Donc on ne peut pas faire l'économie d'une analyse politique.
Et donc les camps de réfugiés, vous l'écrivez, ont toujours été des positions de repli pour des combattants. La conscience de participer malgré tout à des combats politiques a toujours été là. Dans l'humanitaire, je parle notamment de cet humanitaire français, puisqu'on a quand même oublié de dire, il faut le rappeler, que la France, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, Jean-Christophe Ruffin, je veux bien que vous me donniez vos lumières, a été la France un lieu de développement assez extraordinaire de l'humanitaire au XXe siècle.
Mais parce qu'il a été tardif, vous savez, quand les gens rénovent leur boulangerie, qui sont les derniers à le faire dans une rue, ben, ils ont évidemment l'aventure la plus moderne. Nous, on a fait ça, c'est-à-dire que la France était très en retard. Finalement, nous avons été un pays qui a pendant très longtemps reçu l'aide. Faut pas oublier que voilà, les grandes opérations américaines d'après-guerre, toute la question des guerres coloniales, etc. Nous étions finalement plus des gens qui appelaient l'aide extérieure que des gens capables de la fournir. Donc il a fallu qu'il y ait les 30 glorieuses, qu'il y ait le développement économique, la fin des guerres coloniales, une certaine forme de prospérité. pour que, en effet, la France devienne une sorte de pays émergent à l'humanitaire. Et à ce moment-là, elle a créé, elle a pris une place, si vous voulez, qui était une place singulière avec la création de ces French Doctors dont on a parlé tout à l'heure et qui finalement étaient nouveaux et qui donc, peut-être parce qu'on avait justement ce retard, nous a situés au contraire en avance à ce moment-là.
Alors, je voudrais vous poser une question donc vraiment biographique. Vous êtes en 1985 directeur médical en Éthiopie d'Action contre la faim. L'Éthiopie, je le rappelle, les plateaux du nord du pays ont connu de nombreuses famines et celle de 1984-85 a été particulièrement dévastatrice, plus de 500 000 morts. On a compris ensuite que le gouvernement, on l'a compris assez vite d'ailleurs, a utilisé un peu l'aide humanitaire pour aider au déplacement forcé et voulu par lui des Éthiopiens du nord. Et c'est tellement vrai que Ronnie Broman, qui à ce moment-là est à Médecins sans frontières, à l'été 1985 reçoit des rapports et en octobre 85 dénonce publiquement l'instrumentalisation de MSF par le gouvernement éthiopien, envisage de se retirer et finalement il est chassé. Et vous êtes sur place et qu'est-ce que vous pensez de ce problème qui est au cœur de notre sujet là qu'on vient d'aborder, humanitaire et politique?
Ce qu'on a constaté petit à petit, mais assez vite apparu comme évident, c'est que le gouvernement éthiopien non seulement détournait l'aide, etc., ce qui est relativement classique, j'allais dire, c'est une situation qu'on connaît bien, mais en plus avait construit une sorte de mécanique politique de transfert de population pour vider les régions qui sont des régions en rébellion, les régions du Nord, où se développaient des maquis, de façon à transférer cette population vers le sud, dans des endroits qui étaient, d'un point de vue du biotope, complètement différentes, évidemment, puisque c'est des régions tropicales, et ce sont des gens qui viennent de régions désertiques, qui étaient transférés massivement. Donc il y avait une opération extraordinairement politique pour vider des territoires entiers, pour déplacer les populations. C'était pas de l'ethnic cleansing, c'était pas du nettoyage ethnique au sens strict, mais c'était plutôt retirer le soutien donc que les maquis pouvaient avoir dans ces populations en vidant carrément ces populations. Et que ce mouvement, eh bien, le gouvernement éthiopien avait trouvé malin, si je puis dire, de faire financer tout ça par l'aide humanitaire. Autrement dit, non seulement l'aide humanitaire était détournée, mais elle était même impliquée, elle devenait acteur, en quelque sorte, à son corps des fonds, bien sûr, d'un projet politique qui était un projet meurtrier. Donc, non seulement elle n'aidait pas les populations, mais elle contribuait à, finalement, à leur souffrance.
Et vous pensiez, vous aussi, comme Ronnie Broman, qui l'a beaucoup écrit, qu'il valait mieux se retirer?
Alors, là, donc sur le constat, on est parfaitement d'accord. Là-dessus, il n'y avait pas de question. La question qui se pose tout de suite, mais là aussi, il faut se replacer dans la réalité historique du moment. Et ça, c'est peut-être, encore une fois, cet avantage de vivre ces choses, c'est que on est dans un brouillard historique permanent. A posteriori, les choses deviennent beaucoup plus claires, mais quand on est dedans, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux se retirer? Ou est-ce qu'il vaut mieux maintenir un lien pour s'opposer de l'intérieur, je dirais, à un processus? Et c'est là où on a eu ces différents. Certes, la position de Ronnie était une position beaucoup plus radicale, si vous voulez, mais qui supposait la fermeture des missions et donc, oui, d'une certaine manière, l'abandon de ces populations. Alors que moi, j'ai défendu plutôt une forme de maintien de l'aide. Et ça, c'était le début de cette espèce de tension qui existe toujours aujourd'hui entre le plaidoyer et l'action, si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il faut privilégier le plaidoyer au risque de se faire mettre à la porte et d'abandonner les gens sur place, ou est-ce qu'il faut privilégier l'action au risque effectivement d'être complice et de ne pas parler suffisamment fort pour dénoncer ce qui se passe?
Juste, Ronnie Broman sera avec nous dans le quatrième épisode jeudi. Là, je le fais parler puisqu'il n'est pas en studio. Il faut quand même préciser que dans son livre « Pourquoi je suis devenu médecin humanitaire », il rappelle, malgré sa position qu'on vient de dire au Biafra, en Éthiopie, il fallait se retirer, il ajoute « Il faut quand même éviter l'absolutisme moral, je le cite, qui exigerait une totale pureté de l'action et ne raisonnerait qu'en termes de tout ou rien. On doit trouver à chaque fois un juste équilibre entre les compromis acceptables et les compromis excessifs. » Ce qui rejoint quand même, sur le plan des principes, ce que vous venez de dire, vous aussi, Jean-Christophe Ruffin. Et vous, Michael Neumann, vous pensez que l'humanitaire a découvert ou a toujours su qu'il était toujours impur et obligé de calculer le compromis est-il acceptable avec les forces politiques ou le compromis est-il excessif et il faut que je me retire.
Je crois que l'histoire récente de l'humanitaire est jalonnée d'un certain nombre d'épisodes dramatiques qui nourrissent cette réalisation-là que, pour paraphraser de nouveau Ronnie, il existe une ligne floue mais bien réelle au-delà de laquelle l'aide se retourne contre les victimes et nourrisse les bourreaux. L'Éthiopie en est une de ces histoires. La question de la prise en charge des réfugiés rwandais Hutus en provenance du Rwanda après le génocide commis contre les Tutsis en 1994 en est une autre. Un épisode à l'occasion duquel les humanitaires se sont, pour une partie d'entre eux en tout cas, aperçus, ont finalement donc analysé politiquement la situation, comme Jean-Christophe Ruffin le disait tout à l'heure, pour conclure que la machine humanitaire nourrissait l'appareil génocidaire en reconstruction. Donc il y a comme ça des épisodes très très marquants qui ont permis de caractériser cette capacité malheureuse des humanitaires à nourrir la machine criminelle. Donc ces dernières années, et l'histoire de MSF est parsemée de réflexions de ce type, et il est exact de dire que les attitudes des acteurs observés à l'occasion de ces situations divergent jusqu'à aujourd'hui, puisque certains des acteurs ne regrettent pas leur choix d'être restés en Éthiopie en 1985. D'aucuns estiment qu'un autre choix aurait pu être fait. On est dans vraiment le dilemme moral, et le dilemme moral, il n'a pas de solution pure et parfaite.
Alors,
je pense qu'il est juste extrêmement important, effectivement, pour le présent et l'avenir, de sauter de l'idée d'une pureté humanitaire. La pureté humanitaire n'existe pas. Elle est prise dans un écheveau politique compliqué, de tensions parfois indépassables. Ce qu'il est important de faire, c'est d'expliciter le raisonnement qui conduit à prendre une décision plutôt qu'une autre.
Donc les situations sont impures moralement, mais encore faut-il les examiner, voir celles qu'on peut accepter et celles qu'on ne peut pas accepter. Mais encore faut-il justement être en situation de pouvoir. Or, à Gaza aujourd'hui, les associations humanitaires traditionnelles ont un mal fou à y entrer. La semaine dernière, Jean-Christophe Ruffin, l'armée israélienne, avec les États-Unis, a annoncé une nouvelle aide qu'on appelle SDS1, distribution sécurisée numéro 1. On distribue 2 colis par mois. Ce sont des colis qui sont censés nourrir 5 personnes et demie, je cite, pour 3 jours et demi. 8000 colis ont été distribués. Tout ça montre que c'est très peu. Et tout cela montre aussi une très grande méfiance à l'égard de l'humanitaire traditionnel. Pourquoi? Où en est-on? Et est-ce qu'effectivement, on peut pas faire de l'humanitaire sérieux sans les vétérans de l'humanitaire, comme disent certains, sans ceux qui savent le faire?
Oui, enfin, je crois que les vétérans n'ont rien à voir là-dedans, parce que c'est
l'expression qui a été employée dans un article du Monde, oui, que j'ai lu, et donc c'est pour ça que employée par,
oui,
quelqu'un.
Oui. Non, c'est pas tellement une question de vétérans, c'est une question de savoir qui doit faire quoi. Moi, je pense que les organisations humanitaires, pas seulement autour de Gaza, mais pour d'autres conflits aussi, ont toujours eu un point aveugle, parce que c'est très difficile d'agir dans ce domaine, qui consiste aussi à dénoncer l'utilisation qui peut être faite de leur aide. C'est-à-dire, je m'explique, si vous avez des détournements, si vous avez l'utilisation de civils comme bouclier humain, si vous voyez tout ça, les organisations humanitaires ont beaucoup de mal à le dire, et donc évidemment la tentation, c'est que les belligérants, et là en l'occurrence c'est Israël, se substituent à eux, font leur loi d'une certaine façon, et vont dire nous allons prendre des garanties, créer un système qui contrôle qu'il n'y ait pas de détournement, etc. Et ça, c'est évidemment un échec énorme, parce que ce serait aux organisations humanitaires elles-mêmes, si vous voulez, de le faire, c'est-à-dire de d'apporter cette garantie. Et c'est difficile. Et je pense qu'il y a là-dessus une sorte de vide.
Mais vous pensez que les Israéliens ont une vraie préoccupation humanitaire ou bien l'analyse serait plutôt de dire que tout ça est plein d'hypocrisie?
Ben, comme là, on est en plein dans ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire d'une sorte d'intrication complète et très difficile à démêler entre le discours humanitaire, le discours ou pseudo-humanitaire, le discours politique, les arrière-pensées, etc. Tout ça est évident, mais il est certain que dans l'affaire de Gaza, par exemple, entre les belligérants, puisqu'on peut parler de belligérants, même s'ils sont pas constitué en état de part et d'autre, mais enfin, il y a la volonté d'utiliser l'aide humanitaire. C'est une évidence. Je veux dire, les Israéliens n'ont pas, à mon avis, forcément cet agenda humanitaire en priorité, ça, c'est moins qu'on puisse dire, mais ils sont contraints de le faire par les pressions américaines, par les pressions internationales. Et donc, ils sont en train d'essayer de monter un système qui est un système politique de contrôle de l'humanitaire pour se substituer finalement à un rôle qui normalement devrait être celui des ONG.
Quelle est votre lecture à tous deux, Marie-Luce Desgrandchamps et Michael Neumann? Pardonnez-moi, il faut que je vous demande d'être un peu bref pour que vous puissiez parler tous les deux.
Écoutez, moi je vais réagir comme ça à ce que dit Jean-Christophe Ruffin. Je pense que il n'y a pas d'échec de l'humanitaire à Gaza. Je veux dire, c'est pas l'humanitaire qui est en échec à Gaza, c'est l'ensemble des pouvoirs qui ont été jusqu'à maintenant absolument incapables de ralentir la machine de mort d'Israël contre les civils. Je crois pour ma part que si l'humanitaire est en situation difficile aujourd'hui, c'est faute de soutien et faute de consentement, d'abord des Israéliens. La question de l'utilisation de l'aide, notamment par les Palestiniens et le Hamas, n'est pas la question qui se pose aujourd'hui pour une organisation comme Médecins Sans Frontières. Et si je peux dire un mot sur les dispositifs de secours aujourd'hui,
oui,
encouragés par Israël, c'est que ce dispositif est précisément créé pour ne pas fonctionner et pour maintenir la politique de famine et d'assassinat collectif des Gazaouis.
Et vous, Marie-Luce Desgrandchamps, vous êtes d'accord?
Non, mais simplement peut-être rappeler que, comme l'a déjà dit aussi Jean-Christophe Ruffin, cette question de dans quelle mesure est-ce que l'aide finalement elle est détournée, utilisée par d'autres, instrumentalisée, etc. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanitaire. On est sans arrêt face à cette problématique-là, et c'est à mon sens pas une raison pour décrédibiliser les organisations humanitaires.
René Broman, pardon, excusez-moi, Jean-Christophe Ruffin, si vous êtes encore avec nous, je trouve quand même que les positions qu'on entend là en studio de Michael Neumann sont bien plus fermes que la vôtre. Est-ce que je me trompe sur le fait
qu'Israël
ne veut pas créer véritablement l'humanitaire, a dit Michael Neumann.
Oui, mais je pense que, c'est peut-être une culture du... justement profondément lié à cette espèce d'idéologie de neutralité et d'équilibre qui doit être pour moi celle de l'humanitaire, c'est-à-dire que je pense que on ne sert pas l'action en donnant des bons points, et je pense qu'on ne peut pas affranchir, même quelque, c'est pas un engagement politique, c'est une réalité, on ne peut pas affranchir le Hamas par exemple de mener des actions d'utilisation de détournement de l'action humanitaire. Si on le fait, ça veut dire
où sont les preuves, monsieur Ruffin? C'est une question sérieuse. Où sont les preuves? Il y a aucune preuve, aucun indice, aucun indicateur depuis octobre 2023 de l'utilisation de détournement de l'aide par le Hamas. Citez-moi un exemple, citez-moi une preuve, s'il vous plaît.
Non, mais je ne sais pas ce que vous entendez par preuve, mais je veux dire que le Hamas est forcément le destinataire. D'ailleurs, vous avez, je pense, beaucoup de vos correspondants qui ont les liens, parce que c'est un des problèmes aussi, c'est qu'on ne peut pas... On peut pas envoyer aujourd'hui facilement et même parfois pas du tout d'expatriés dans ce conflit, et que donc on s'appuie sur des gens qui localement ont forcément des attaches, des sympathies, voire des intérêts d'un côté ou de l'autre.
Alors que le Hamas ait des intérêts à laisser Médecins Sans Frontières ou les organisations internationales travailler à Gaza est une chose. Que le Hamas en profite pour détourner significativement l'aide humanitaire telle que vous semblez le dire, c'en est une autre.
Bah écoutez, je vous laisse la responsabilité de vous. Mais je pense qu'on ne sert pas la cause.
Pour des raisons de temps.
Mais d'accord. Dernière phrase, on ne sert pas la cause en simplifiant. On ne sert pas la cause en simplifiant la situation. Et je pense que c'est vraiment contraire à une approche fondamentalement équilibrée de l'humanitaire que de vouloir avoir une vision purement unilatérale de la situation. Je pense qu'il y a deux belligérants et qui sont tous les deux parties prenantes de ce qui se passe, y compris dans le domaine humanitaire.
Merci beaucoup à tous les trois, Jean-Christophe Ruffin, Michael Neumann et Marie-Luce Desgrandchamps. Pardonnez-moi pour mes lapsus concernant les noms. C'est de notoriété publique que j'ai parfois du mal avec les noms. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui, cette semaine, s'intéresse à la notion de destin. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi croyons-nous au destin ? Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs grands livres de témoignages, de réflexions et aussi de littérature sur ces massacres de masse, sur les crimes contre l'humanité, sur les crimes d'extermination, ont porté paradoxalement sur la notion de destin. On fait un usage paradoxal de cette notion classique, traditionnelle, métaphysique de destin ou de destinée. Il suffit de citer par exemple le grand roman de Vassili Grossman, Vie et destin, ou aussi celui d'Imre Kertész, prix Nobel de littérature, intitulé « Être sans destin ». Pourquoi ces deux usages du mot « destin », pourquoi ces deux grands livres comportant le retour de la notion de destin au cœur du XXe siècle, pourquoi ont-ils quelque chose de paradoxal ? C'est que dans l'usage classique de la notion de destin, le destin est ce qui régit les vies individuelles d'une manière transcendante, d'une manière qui ne laisse aucune place à notre liberté individuelle. Le destin semble être ce qui écrase l'individu. Il y a un destin, un fatum, comme on dit en latin, individuel, un destin qui semble tout régir et qui nous condamne à suivre quelque chose qui a été écrit une fois pour toutes, comme dans Jacques le fataliste, celui qui croyait que son destin était écrit dans un grand livre. Ce grand livre, pourquoi d'autres grands livres au XXe siècle ont-ils repris ce thème du destin ? C'est en un sens absolument inverse. Si Kertész ou Grossman parlent de destin, c'est parce que dans la mécanique de l'extermination, dans la mécanique du meurtre de masse, dans la mécanique du totalitarisme, les vies individuelles sont écrasées. Il y aurait donc pire qu'avoir un destin régi par une puissance transcendante, ce serait de n'avoir plus du tout de place pour un destin individuel. Être sans destin, le grand roman de Imre Kertész vise justement à redonner le sens d'un destin individuel, le sens d'une expérience subjective personnelle, même dans un monde dépersonnalisé. Ce destin paradoxal, c'est ce destin qui maintient la vie individuelle, le sens de notre existence personnelle dans un monde où elle est écrasée de l'extérieur. De cette même manière, au fond, dans le texte autobiographique et en même temps romancé d'Aaron Appelfeld sur sa propre vie, et le grand romancier aussi des destins individuels dans l'extermination collective, eh bien, de même, dans ce livre, on voit apparaître le respect de la vie individuelle, de l'expérience subjective, du sens que notre expérience, même la plus absurde, même la plus kafkaïenne, et ce sont tous des grands héritiers de Kafka, même l'existence la plus absurde dans un monde qui semble avoir perdu son sens, nous y redonnons sens, comme un destin au moins pour nous, un destin subjectif et individuel. C'est notre vie, c'est ma vie, c'est l'histoire de ma mémoire, c'est quelque chose que nous nous approprions. Nous ne pouvons donc pas entièrement renoncer à l'idée de destin. L'idée de destin n'est peut-être plus pour nous aujourd'hui l'idée d'une puissance supérieure qui régit nos vies comme si nous étions des marionnettes, comme si nous étions des poupées. L'idée de destin est au contraire quelque chose que nous pouvons nous réapproprier de l'intérieur par un récit, par un sens et peut-être non seulement de manière individuelle mais collective, le destin de l'humanité, peut-être n'est-il pas écrit dans un grand livre divin, mais peut-être avons-nous besoin d'y croire pour survivre aujourd'hui.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Nicolas Bonnet. Merci aux équipes techniques d'ICI Azur qui ont permis de réaliser un duplex ce matin avec nous. Elle a été préparée, cette émission, en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.